C'est quoi ça, la société apprenante ?
La société apprenante. Peut-être qu'il faudrait repartir sur des bases un peu plus nécessaires à la survie de l'humanité, je dirais. Se préparer un peu aux changements auxquels on va faire face. Climatique, migratoire, humain.
C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour tout comprendre au concept passionnant de société apprenante. À mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Cyril Lacarrière. Et bonjour François Taddeï.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. François, vous êtes ingénieur biologiste à l'INSERM, président du Learning Planet Institute, une association qui veut réinventer l'apprentissage à tous les âges de la vie et construire des, je vous donne envie, dans mille des sociétés apprenantes, durables et inclusives. On a donc bien fait de vous inviter, je pense, d'autant que vous avez co-rédigé pour le ministère de l'Éducation nationale un rapport sur la recherche et développement de l'éducation tout au long de la vie, rapport que vous aviez remis en 2017 à Najat Vallaud-Belkacem. François Taddeï, vous racontez que les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont marqué un tournant dans votre carrière. C'est à ce moment-là que vous avez eu envie de repenser l'éducation.
Oui, j'étais le 11 septembre 2001 à New York, et j'ai vu les tours tomber en direct et j'avoue que c'était relativement choquant. Et à l'époque, j'avais des enfants qui avaient 1 et 3 ans, et c'était un peu difficile de se dire qu'ils allaient grandir dans un monde où ce genre de choses pouvaient se produire. Et le 21e siècle a pas vraiment, a continué dans cette direction. Et j'avoue que ça m'a beaucoup choqué à l'époque. Et de ce moment-là, en fait, moi, j'étais dans une espèce de tour d'ivoire scientifique, puisque j'étais à ce moment-là à Rockefeller University pour y passer une année sabbatique. Et donc, ça m'a beaucoup choqué. Et je me suis dit qu'il fallait essayer de faire quelque chose pour la jeune génération. Et donc, j'ai travaillé là-dessus. En plus, quelques années plus tard, mon fils est arrivé à l'école primaire et sa maîtresse me dit « Il est charmant, cet enfant, mais il pose des questions. »
Alors Cyril, d'où ça sort, la société apprenante ?
Avant même qu'on parle d'une société qui apprend, on a parlé d'une organisation qui apprend, et ça grâce à Peter Senge, un chercheur américain, professeur en management. C'est lui qui théorise cette idée d'organisation apprenante. Nous sommes en 1990 et il publie La cinquième discipline. Voilà comment il définit son idée. L'organisation apprenante reflète une culture où les gens collaborent et réfléchissent ensemble pour que l'organisation s'améliore constamment afin de devenir une organisation saine et agile. Fin de citation. C'est beau, on dirait du Quentin Lui, une luisance, comme on dit dans le bureau. Bref, derrière toutes ces belles phrases, Senge nous dit qu'au sein d'une telle organisation, on apprend tous les jours et tout au long de sa vie pour le bénéfice de tous et surtout celui de l'entreprise. Car je vous l'ai dit, Peter Senge enseigne le management et sa théorie vaut donc pour les managers qui peuvent ressortir ce précepte d'organisation apprenante lors de leur team building.
Et comment on passe de l'entreprise à l'école alors ?
Eh bien grâce à un homme installé avec nous dans ce studio, François Taddeï. Avec vos co-auteurs Catherine Becchetti-Bizot et Guillaume Houzel, vous lancez l'idée de cette société apprenante. J'ironisais tout à l'heure sur Peter Senge, mais sauf erreur, ce chercheur américain avait déjà posé les bases de votre réflexion. Comment apprendre tout au long de la vie, et pour vous, pas seulement dans le cadre de l'entreprise, vous voyez plus loin, plus haut, plus fort. Vous voyez, vous aussi, vous parlez d'émulation collective, d'intelligence collective, d'apprentissage collectif. Dans le rapport que vous avez rédigé pour le ministère de l'Éducation nationale, vous souhaitez, je vous cite, que la France devienne une société réellement apprenante, une société où tous les potentiels individuels et collectifs se réalisent grâce à une formation de qualité dès la petite enfance et donc tout au long de la vie. On va pas se mentir, ce n'est pas exactement ce qu'on entend aujourd'hui quand le gouvernement parle de l'école, ni celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Alors, est-ce que cette société apprenante a de l'avenir ? Et si oui, comment ? Comment aller vers cette société apprenante ? Est-ce qu'on peut s'affranchir de l'éducation nationale ? Qui doit participer ? Quelle place pour les parents ? Et quels sont les risques d'un fossé qui se creuse entre ceux qui peuvent apprendre, toujours plus, et ceux qui n'ont pas accès aux mêmes conditions du savoir ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci beaucoup Cyril. François Taddeï, qu'est-ce que la société apprenante que vous prenez, vous, doit à cette organisation apprenante dont nous parlait Cyril, forgée par l'Américain Peter Senge ?
Cette idée de réflexivité, cette idée de collectif, cette idée de capacité à devenir plus agile pour s'adapter à un monde qui change, on voit bien que c'est vrai pour les entreprises qui sont confrontées à un monde qui change, mais c'est vrai pour l'ensemble de la société. Quand arrive la pandémie, on a tous besoin d'apprendre autrement, ne serait-ce que d'apprendre en ligne, d'apprendre à travailler ou à faire tout un tas de choses qu'on faisait jusque-là différemment. Quand arrive l'intelligence artificielle, même problème. Quand arrivent les transitions climatiques, environnementales, sociétales, démocratiques auxquelles on est confronté, on voit bien qu'on a tous besoin d'apprendre de nouvelles choses pour s'adapter à un monde qui change, dans lequel les défis sont juste colossaux et complètement inédits par rapport à ce qu'on a appris à l'école.
Vous citiez au début de l'émission l'exemple de votre expérience personnelle aux États-Unis. Est-ce que aux États-Unis, on enseigne, l'enseignement est différent et il intègre déjà ce que vous prenez vous ou pas du tout? C'est une réflexion générale universelle que vous avez.
Il y a des endroits qui avancent plus vite que d'autres. Certains endroits aux États-Unis, mais par exemple la Finlande ou l'Estonie ont beaucoup avancé dans cette direction, comme le Canada ou Singapour. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont su se transformer pour faire en sorte que l'on apprenne à apprendre et qu'on soit capable d'apprendre tout au long de la vie pour s'adapter aux défis auxquels on est tous confrontés individuellement, collectivement, puisque c'est ce qu'on dit sur la société française est vrai à travers la planète. Mais il y a des endroits qui sont remarquables. Par exemple, la Fondation Lego nous dit qu'une des écoles qui prépare le mieux au 21e siècle se trouve en Haïti. Donc c'est intéressant parce que c'était un peu une surprise.
On s'y attend pas.
On
y reviendra parce que ça, j'ai envie de connaître plus sur l'éducation en Haïti. Reprenons à la base. Comment vous définiriez, on a entendu tout à l'heure Cyril qui expliquait les origines de cette société apprenante, comment vous la définissez, cette société apprenante?
C'est une société dans laquelle chacun d'entre nous peut s'interroger sur ce qu'il sait et sur ce qu'il a besoin d'apprendre pour rester capable de faire face aux défis individuels, collectifs, sociétaux et planétaires auxquels on est confronté. C'est une capacité à apprendre tout au long de sa vie, mais à apprendre pas seul, à apprendre dans un collectif où on est là pour partager. Et plutôt d'être en compétition sur les savoirs d'hier, est-ce qu'on peut coopérer sur les défis d'aujourd'hui?
J'ai l'impression, quand je vous écoute, que vous appelez à une plus grande horizontalité dans le partage des savoirs. En France, on a une grande tradition de verticalité. C'est le prof qui parle et nous, on écoute. On ne pose pas de questions comme votre fille quand elle est arrivée à l'école en France. C'est ça qu'il faut remettre en cause?
Oui, il faut. C'est pas qu'on n'ait pas des savoirs différents les uns des autres, mais par exemple, pendant le Covid, il y a des jeunes qui savaient plus utiliser les outils numériques que leurs parents ou leurs enseignants. Et donc, admettre que personne ne sait tout, mais que tout le monde sait quelque chose et qu'on a à gagner à mutualiser nos apprentissages et à coopérer pour résoudre des défis où personne n'a la solution, je pense que c'est essentiel.
Et pour vous, c'est d'abord cette société de l'apprentissage permanent, c'est d'abord le développement de la pensée, de l'esprit critique. Ça, c'est le nerf de la guerre, quelque part, intellectuellement.
On a besoin d'esprit critique, parce que en plus il y a tellement de fake news aujourd'hui que ça devient encore plus indispensable, mais on a besoin de capacité à coopérer pour savoir trier le bon grain de livret. Et c'est pas complètement évident, mais ça s'apprend. Et ça suppose de la curiosité, ça suppose la capacité à questionner, ça suppose plein de choses que Socrate aurait déjà promu en son temps.
Oui, mais aujourd'hui, vous citez Socrate, on a toujours que la philosophie en première, je crois, enfin, ça n'a pas évolué ça n'a pas évolué depuis mon époque. Vous faites partie des gens qui trouvent ça un peu aberrant. Moi, je me suis toujours interrogé sur le fait pourquoi on commence la philo, qui est peut-être la matière des matières, si tard, si peu.
Il y a des expérimentations où on le fait dès la maternelle, en primaire, etc. Et ça donne des résultats qui sont vraiment géniaux. Parce que les enfants sont très avides. Je vous recommande les petits goûters philo et autres. Je peux vous dire que mes enfants qui ont été biberonnés à ce genre de choses petits, mon fils a eu 19 au bac en philo, non pas parce qu'il était bon pendant l'année, mais juste parce qu'il a révisé en relisant les petits fascicules qu'il avait lu dans l'enfance.
Vous dites qu'il faut passer d'une culture de contrôle à une culture de confiance, d'une culture de compétition à une culture de coopération. Ça me fait penser à l'école Montessori, ça existe déjà ça, non?
Alors ça existe dans certaines conditions et pour certaines familles, et malheureusement ça ne s'est pas généralisé. Même si Maria Montessori l'a pensé pour les plus défavorisés et ceux qui étaient les plus en difficulté,
oui, non, aujourd'hui, c'est plutôt,
de facto c'est plutôt...
Oui, effectivement, les gens riches qui vont...
Montessori. Dans cette société apprenante, il y a aussi un rôle qui émerge, c'est celui de mentor. Pourquoi il est central ce rôle?
Alors en fait, le mentor historique, le premier mentor de l'histoire, c'est le mentor de Télémaque, qui s'appelait Monsieur Mentor, avec un M majuscule.
Télémaque, le fils d'Ulysse?
Oui, exactement. Et donc Télémaque cherche son père et Mentor l'accompagne. Et en l'occurrence, c'était Athéna, déesse de la sagesse et de la science, qui s'était incarnée dans Mentor pour accompagner. Donc c'est assez idéal comme exemple archétypal. Mais c'est quelqu'un qui ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais qui est là pour aider l'apprenant, qui explore et qui cherche son chemin.
Et qui peut être mentor?
On peut tous être mentors, ça peut s'apprendre un petit peu, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'école de mentors. Donc en fait, on apprend en mentorant et en étant mentoré.
Mais c'est pas qu'une philosophie, cette idée de se développer toute la vie, d'apprendre tout au cours de la vie, c'est aussi tout simplement une réponse à l'évolution de nos sociétés. Je pense à l'intelligence artificielle, on va être obligé, même dans nos métiers, de nous réinventer beaucoup plus fréquemment qu'avant. On ne va pas faire la même carrière, même exercer le même métier tout au long de sa vie.
Exactement. Et donc, vu que les métiers les plus demandés aujourd'hui n'existaient pas il y a quelques années, et les métiers les plus demandés dans 10 ans n'existent probablement pas aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin d'apprendre à créer son propre métier. On a besoin d'apprendre à créer ses propres apprentissages et à créer ses propres explorations. Simplement, le faire seul, c'est difficile. Si on le fait dans des collectifs bienveillants dans lesquels on a le droit d'explorer, y compris d'errer, il y a côté errare humanum est, c'est à la fois l'erreur est humaine et l'errance est humaine. Donc il est naturel, quand on est confronté à l'inconnu, de faire des erreurs. Mais le statut de l'erreur est historiquement pas spécialement encouragé dans notre système éducatif.
Et pour parler de ce concept de société apprenante, Quentin, vous êtes allé interroger les gens dans la rue.
10h30, alors qu'il sort d'un café avec le Figaro sous le bras, j'arrête ce monsieur.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom à vous, monsieur ?
Michel.
Michel, vous avez quel âge ?
84 ans. Et j'habite à Nantes. Et là, je vais aller prendre mon train à Montparnasse.
Vous rentrez dans les Pays de la Loire.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'il en dit, Michel, pas très loin de Montparnasse, de notre thème du jour ?
La société apprenante. Ah ben là, il va falloir sûrement changer, hein, parce que finalement, on arrive à voir des gens qui sont un peu robotisés. Vous appuyez sur un bouton, ils vous font un discours pendant 3 quarts d'heure, qui est très cohérent, qui est très brillant. Mais à la fin des 3 quarts d'heure, vous n'avez strictement rien appris.
Et c'est aussi ce qu'on appelle dans notre équipe le syndrome Zoom Zoom Zen. 60 minutes, le discours est cohérent, la mise en onde impeccable, on a passé un bon moment. Mais ce qu'en retient l'équipe, alors ça, Cyril, de façon quotidienne, Manon a acheté un carnet nommé « Ce que j'ai retenu, il est vierge ».
Et, c'est vrai, il a même disparu.
Et Mathieu ne se souvient même pas de ce qu'il a mangé ce midi. Donc, mais malgré ça, on va continuer. Michel me dit qu'on doit être curieux, et curieux des autres.
Ah oui, moi je dis toujours, le dernier des imbéciles, il peut vous apprendre quelque chose. Il a son domaine qui est peut-être très réduit, mais il peut vous apprendre quelque chose. On a l'impression qu'il y a un peu un manque d'ouverture d'esprit, quoi. Vous avez des gens qui auront un bac plus 50 et puis qui seront pas, ils auront la capacité à apprendre, mais ils ne seront pas forcément intelligent.
Alors les diplômes rendent-ils intelligents pour Michel ? Pas forcément. Elle a un sac à dos, elle écoute de la musique dans son gros casque relié à son téléphone. Elle n'a visiblement pas trop envie de me parler, mais j'insiste un peu. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom à vous ?
Marie.
Marie, vous avez quel âge ?
32 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Ça dépend.
Ça dépend, ça dépasse ?
Exactement. On vous a dit de répondre par oui ou par non, forcément.
Ah ça, pour apprendre des conneries, il y a du monde. François Tadei, dans cette équipe, ils peuvent vous faire le Père Noël est une ordure en entier, comme Marie. Mais alors, pour Marie, c'est quoi ?
La société apprenante. C'est-à-dire que si on a une idée que les choses changent vite, que le monde est un peu en train de... peut-être pas de s'effondrer, mais d'aller de plus en plus mal, peut-être qu'il faudrait repartir sur des bases un peu plus... nécessaire à la survie de l'humanité, je dirais. Se préparer un peu aux changements auxquels on va faire face. Climatique, migratoire, humain.
Bon, pour Marie, c'est carrément une vision dystopique, mais on discute de l'école.
Moi, à l'école, non, j'avais pas de problème, parce que j'avais compris ce que les profs attendaient, enfin, ce qu'ils voulaient qu'on sorte pour les contrôles et avoir des bonnes notes. Pour moi, j'ai eu un bon apprentissage à partir du moment où j'ai fait un master, en fait, des travaux de groupe. En fait, le prof n'était plus vraiment n'avait pas un statut supérieur, mais était dans l'échange, en fait. C'était une classe assez mixte, avec des gens de tous les âges, de tous les milieux et tout ça. Et du coup, ça permettait, je trouve, quelque chose de beaucoup plus intéressant et tout. Mais c'est triste qu'il faille attendre d'aller jusqu'au master, ce que tout le monde ne fait pas, ne peut pas faire, etc. Mais en effet, je pense que ce serait une bonne idée.
Hein. Et si le collectif prenait plus de place dans l'éducation et la transmission en général, c'est aussi ça, la société apprenante. Avant de laisser filer Marie, je lui demande si, d'après elle, on apprend toute sa vie. Elle sourit.
En fait, je reviens de 4 ans dans le Pacifique, donc j'ai appris pas mal de trucs différents de ce qu'on a l'habitude de voir si on est en France ou à Paris. Par exemple, des modes de vie complètement différents, des modes de vie communautaires où les gens vivent en tribu, se nourrissent de leur pêche, de leur chasse, de leurs légumes, s'entraident entre eux, même s'il y a plein, évidemment, de défauts comme dans toutes les sociétés, mais c'est très différent en tout cas, et c'était hyper intéressant de découvrir ça.
Vous avez appris à pêcher ?
Voilà.
Vous avez pêché quoi ?
Bah, de tout, hein. Mai mai, thon jaune, perroquet. Ah, vous connaissez pas. C'est un poisson de toutes les couleurs qui est super bon.
Voilà, le perroquet est un poisson. J'ai appris un truc.
Ouais, moi aussi. Voilà. J'étais choquée.
J'arrête Nicolas, 20 ans, costume, cravate. Il est attendu à l'école du Louvre.
La société apprenante, c'est des mots de Gabriel Attal ? Pas du tout.
François Tadei ?
Je ne connais pas.
Moi non plus.
D'accord, qui est-ce?
Notre invité.
D'accord.
Voilà, enchanté. Nico me dit qu'il veut devenir professeur en philo. Je lui parle de la société apprenante, celle du 21e siècle, qui va inclure les grands enjeux de l'époque. Il découvre avec attention et je lui demande quel prof il veut être.
Très intéressant, très intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais faire de neuf? J'ai beaucoup de profs qui m'ont profondément inspiré, qui ont été des maîtres dans le bon sens du terme, des maîtres avec un élève. Élève, enfin l'étymologie c'est élevé, vont dire qui m'ont vraiment élevé, qui m'ont vraiment donné le goût de ce que je voulais faire. Donc c'est déjà tenter de faire comme eux. Donc en étant moi-même passionné, bien sûr, en évitant tout le côté scolaire. Un prof qui commence son cours en disant « Bon, l'examen ce sera ça, 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 vous devez lire ça, 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 ça déjà, je trouve ça problématique ». Un cours de morale, par exemple, je pense qu'il faut, ou d'éthique, partir d'un problème éthique qu'on a tous.
Pensée collective, ouvrir les esprits, échanger, revenir à l'essentiel. Le sujet du jour est vaste, mais vous inspire beaucoup. Tout reste à faire et à apprendre, comme toujours. Finalement, en discutant quelques minutes avec vous dans la rue, elle semble très attrayante, cette société apprenante.
Yant, saluons les progrès en rime de notre Verlaine de l'asphalte. François Tadéhi, je rappelle que vous êtes président du Learning Planet Institute. Je reviens sur le témoignage de Marie. Alors, on va pas dénigrer l'éducation nationale pendant toute l'émission, mais elle nous dit qu'elle a dû attendre quand même d'être en master afin de découvrir un apprentissage plus intéressant, plus collaboratif. Je vous ai vu hocher la tête à ce moment-là. C'est quand même dommage d'attendre si longtemps pour trouver un enseignement qui ressemble à celui que vous prenez dans la société apprenante.
Oui, il y a des environnements dans lesquels on peut faire ça à tous les âges. On a parlé de possibilité de faire de la philo ou de la science ou de la recherche ou de monter des projets de design dès l'enfance. Ça fonctionne très bien et ça peut être fait de manière ponctuelle ou de manière filée et intégrée dans une scolarité entière, comme on l'évoquait en Haïti tout à l'heure. Et cette capacité des collectifs à s'emparer de ces sujets, ça suppose que effectivement les enseignants, comme ça a été évoqué, aient envie de faire participer leurs élèves.
Pardon, mais vous dites par exemple la philo, je pense à l'exemple, donne des bons résultats quand les élèves sont tout petits, mais quels résultats ça donne? Des gens intelligents, créatifs, ça donne des gens adaptés au marché du travail? Parce que c'est deux questions qui sont très différentes finalement.
C'est deux questions qui sont très différentes et en l'occurrence ça a été mesuré instantanément, ça n'a pas été mesuré 30 ans plus tard pour savoir ce qu'ils allaient devenir. Donc je ne peux pas répondre à la question complètement. Mais effectivement, cette question-là est très importante. Et en même temps, elles sont en train de se rapprocher plus qu'avant. Parce que des gens qui ne sont pas créatifs, je ne suis pas certain qu'ils aient beaucoup d'avenir sur le marché du travail à moyen terme.
Que pensez-vous de Michel qui nous dit « on s'est robotisé, on appuie sur un bouton, on a un discours de 45 minutes et on n'a rien appris ». Michel, il fait forcément le rapprochement avec nos politiques. Les politiques, est-ce que c'est une bonne vitrine pour la société apprenante?
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des gens surdiplômés et qui sont arrivés au sommet de la sélection. Et en fait, la France est l'un des rares pays où non seulement on sélectionne autant, mais en plus, on est major à l'ENA, major à Polytechnique ou major à Normale Sup. Il n'y a pas de major à Harvard ou à Oxford. Donc, ce système d'hyper-sélection avec une pointe super étroite, très jupitérienne, et je mérite d'être Jupiter puisque je suis dans une méritocratie qui a dit que j'étais au sommet de la pyramide.
Ben non.
On parle beaucoup de l'école, mais comment apprendre quand on n'est plus à l'école? C'est aussi assez mal vu quand on est adulte, je sais pas, d'aller reprendre des cours, de se réinscrire quelque part, parce qu'on parle de choses en collectivité.
Alors en fait, il y a d'une part aujourd'hui des congés de formation dans lesquels on peut avoir la possibilité de faire ce genre de choses, mais il y a aussi plein de gens qui regardent sur YouTube des vidéos pour apprendre des choses. Il y a plein d'environnements dans lesquels on peut apprendre.
Mais ça, c'est individuel. Du coup, par exemple, les vidéos YouTube, on n'est pas en collectivité, on n'est pas dans un espace avec d'autres personnes.
Non, bien sûr, mais la possibilité de se retrouver à plusieurs au sein d'une association, se retrouver dans des universités populaires, il y a un certain nombre de choses comme l'université populaire qui existe depuis le 19e siècle. Donc ce concept existe depuis longtemps, mais on voit bien qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, il faut accélérer ce processus. Et quelque part, ce qui serait important, c'est que la société investisse là-dessus et donc permette aux gens de le faire de manière plus légitime et éventuellement leur donne de l'argent pour se former tout au long de leur vie.
Tout à l'heure, quelqu'un dans le micro-trottoir, un futur prof de philo, oui, je crois, disait, un peu à contre-courant de tout ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est important aussi des figures de maîtres qui sont inspirantes. Alors, c'est vrai qu'on a ce défaut en France d'avoir cette verticalité avec le maître qu'on adule, mais est-ce que ça peut pas donner une inspiration quand même à des élèves? Si on démarre sur une horizontalité tout totale dès le début, et que tous les discours se valent, on risque de pas être très motivé.
Ah non, je pense pas que tous les discours se valent, mais moi j'aime bien Michel Serres qui disait que le mot d'autorité, quand on revient à l'étymologie, c'est ce qui fait grandir. Et donc, c'est pas l'autoritarisme, assez clairement, qui peut au contraire rabaisser. Et donc, cette capacité d'un maître à faire grandir ses élèves, ça me semble extrêmement important. Et effectivement, on a besoin de gens qui soient inspirants et qui soient capables de, comme c'était d'ailleurs la volonté de cet auditeur, de contribuer à partager une passion et à faire grandir l'envie d'aller plus loin et de vouloir apprendre.
Donc des figures charismatiques, oui, inspirants, mais pas étouffants, à peu près. Votre rapport là, que vous avez remis à Najat Vallaud-Belkacem, il est devenu quoi ? Il est sur, dans une étagère ou il a servi ?
Alors, en fait, il y a eu une suite qui a été remise à Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal et Muriel Pénicaud, qui étaient un peu dans les mêmes postes, ministère du Travail et ministère de l'Enseignement supérieur. On discute en ce moment même, au niveau de l'enseignement supérieur, par exemple, à comment est-ce qu'on peut enseigner les transitions. Mais est-ce qu'on peut enseigner les transitions sans penser la transition de l'enseignement ? En fait, il y a plein de gens qui pensent que non, y compris la ministre. Donc, c'est ce besoin de se transformer dans la manière dont on apprend et d'apprendre de ce qui vient du meilleur de la science à travers le monde et de le rendre disponible à chacun et de voir comment l'intégrer dans les cours, quel qu'il soit, quelle que soit la matière auquel ça correspond, c'est devenu essentiel et les jeunes le souhaitent toujours plus.
Et vous pensez que les jeunes profs peut-être vont être sensibles à ce discours-là ? Parce qu'on dit toujours que c'est difficile de faire bouger l'éducation nationale. Effectivement, là, chaque réforme, c'est compliqué. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une crispation et qu'on se dise qu'est-ce que c'est que ces idées venues d'ailleurs ?
Je pense que les enseignants ne sont pas déconnectés d'une planète qui est en souffrance. Et donc, ils voient bien la souffrance de leurs élèves, ils voient bien le manque de sens, ils voient bien le taux de dépression et de problèmes de santé mentale qui augmente un peu partout. Et ils voient qu'il y a besoin, a fortiori quand ils sont eux-mêmes parents, d'accompagner les jeunes autrement.
Quentin. On m'a parlé des formations, notamment pour les médecins, et c'est un chirurgien-dentiste qui me disait que tout au long de sa carrière, parfois il n'a pas vu certains collègues continuer à se former. C'est quand même problématique dans ce domaine. Est-ce que ça devrait être obligatoire de se former ?
Ah ben dans le domaine de la médecine, c'est obligatoire.
Mais ça n'était pas le cas. Ça a toujours été le cas.
Oh, c'est relativement récent, mais c'est on voit bien pourquoi est-ce que c'est obligatoire. Parce que si jamais il y a des nouvelles pathologies du genre Covid, il vaudrait mieux que vos médecins soient au courant de la meilleure manière de les traiter.
Et ils sont contrôlés tout au long de leur carrière.
C'est obligatoire. Il y a une formation continue, mais c'est pas le cas dans d'autres domaines. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que c'est pas le cas dans d'autres domaines ? Et on voit bien que dans un monde qui change toujours plus vite, ça va devenir obligatoire pour rester un professionnel à la hauteur des enjeux qui arrivent.
Derrière cette belle idée d'apprendre tout au long de sa vie, il y a un enjeu et un problème peut-être financier. Il faut financer tout ça. Est-ce que vous êtes pour le revenu universel ? Comme ça, pendant les phases où on se forme, on bénéficie du revenu universel. Ça pourrait être une solution ? Ça pourrait aller de pair avec votre idée ?
Ah bah, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où l'intelligence artificielle va récupérer toujours plus de jobs et toujours plus de la valeur produite par les entreprises et produite par la société, il va falloir repenser la manière dont on redistribue de l'argent, y compris au niveau international. D'accord ? Comment est-ce que, par exemple, les multinationales qui gagnent énormément d'argent et qui sont dans les paradis fiscaux et qui ne payent pas, est-ce qu'on pourrait récupérer une partie de cet argent-là ? Ce qui est d'ailleurs repenser la formation à tous les âges et à travers la planète. Et en plus, on peut créer des nouveaux services publics. Il y a un service public de la radio et de la télé. Il n'y a pas de service public des apprentissages tout au long de la vie. Alors qu'il n'y a pas de raison. On pourrait très bien imaginer de mettre l'intelligence artificielle non pas au service d'intérêts privés et de la pub, mais de l'intérêt des individus et des collectifs pour qu'on apprenne les uns des autres et que l'IA nous aide à savoir avec qui on devrait parler de tel sujet pour bénéficier du meilleur mentor possible pour avancer à différents moments de sa vie.
Alors François, tu as dit dans cette émission, on n'a pas peur des mots compliqués, mais là quand même ça va loin. Planétoyenneté, le planétizen, c'est un concept que vous maîtrisez. Vous allez m'expliquer ce que c'est ?
Alors, en fait, on est des citoyens de la planète comme on est des citoyens de la cité. Mais les citoyens de la cité, chez les Grecs, c'est uniquement des hommes en armes qui défendent les murs de la cité. Quand on dit aux armes citoyens pendant la Révolution française, c'est uniquement des hommes en armes. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'était pas la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Olympe de Gouges l'a appris à ses dépens. Et donc, ce besoin de repenser ça me semble essentiel. Et les murs de la cité, en plus, ils ont séparé les humains de la nature et ils étaient uniquement défendus par des hommes. Et donc, ce n'était pas les enfants, ce n'était pas les migrants, ce n'était pas les femmes. Et la nature n'avait pas sa place. Et donc, on voit bien que si on veut prendre en compte les enjeux planétaires, il faut repenser la citoyenneté de locale à nationale, ça on l'a déjà fait, mais de nationale à planétaire, ça reste à inventer.